Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui continue de vous le raconter pendant ce confinement. C'est aussi l'occasion de se plonger dans de vieilles histoires du cinéma. Et aujourd'hui, justement, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle du pré-code. Au début des années 30 à Hollywood, alors que le pays est en pleine crise économique, le cinéma américain fait preuve d'audace et de modernité en sortant des films dans lesquels on parle sans tabou de sexe, d'argent, d'égalité homme-femme. Quelques années de liberté avant une censure très stricte, c'est l'objet de notre récit du jour, à l'occasion de la sortie du coffret DVD Forbidden Hollywood chez Warner, qu'il faut absolument inscrire sur votre liste du Père Noël. 14h30, les films de ma vie, aujourd'hui c'est le dessinateur et réalisateur Riyad Satouf, qui nous parlera de ses souvenirs de cinéma et des films qui ont jalonné son parcours artistique. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en DVD-VOD, avec au programme aujourd'hui Été 85, le dernier film de François Ozon, L'aventure des Marguerites, avec notamment Alice Paul au casting, et Voir le jour, porté par Sandrine Bonner. Voilà pour le programme de Clap, et tout de suite donc notre récit Forbidden Hollywood.
Europe 1. Le récit.
Nous sommes en 1929. C'est l'année du crash boursier et le début de la Grande Dépression. Les États-Unis ont un genou à terre, le nombre de chômeurs explose et des files d'attente interminables se forment à la soupe populaire. C'est tout le pays qui est en crise. Tout le pays, y compris donc l'industrie du cinéma. D'autant qu'elle doit affronter un autre défi, celui du passage entre le muet et le parlant, qui coûte très cher. Mais ce qui permet aussi beaucoup d'audace. Alors dans cette période trouble, certains cinéastes vont saisir le vent de liberté qui s'offre à eux, en parlant notamment très librement de sexe.
Ah, vous étiez merveilleuse ce soir.
Je suis toujours merveilleuse la nuit.
Vous avez bien entendu, il ne s'agit pas d'un film érotique, mais d'un extrait du film « Je ne suis pas un ange », considéré comme l'un des premiers films du pré-code, de la pré-censure en quelque sorte. Au casting notamment, Mae West et Cary Grant, l'histoire d'une femme, danseuse dans un cirque qui, pour arrondir ses fins de mois, vend ses charmes, ce qui n'est pas du tout du goût de son petit ami. Une chose est sûre, dans l'Amérique puritaine de l'époque, ça ne passe pas. Les groupuscules catholiques sont vent debout, d'autant qu'Hollywood, depuis plusieurs années, traîne déjà une image de décadence. Il flotte dans l'air un parfum de scandale. Car en 1922, l'acteur Fatty Arbuckle est accusé d'avoir tué une actrice, Virginia Rapp, dans l'une de ses soirées hollywoodiennes où l'alcool coule à flot, en pleine prohibition. La même année, l'acteur et réalisateur William D. Taylor est retrouvé gisant dans son bungalow, une balle dans le dos, un meurtre qui ne sera jamais élucidé. Vous l'avez donc compris, les Américains conservateurs regardent Hollywood d'un mauvais œil. C'est alors qu'en 1930 sort Madame Satan de Cécile B. DeMille, qui met carrément en scène une orgie sur fond musical. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le gouvernement fulmine et sentant arriver la censure, les grands studios décident de s'organiser et de la précéder en quelque sorte. Warner et la Metro-Goldwyn-Mayer inventent donc leur propre code, le code ACE. Parmi les mesures prévues, écoutez bien, interdiction de montrer l'adultère sous un jour attrayant, interdiction de montrer les criminels comme des héros, pas d'impudeur ou d'indécence, comme par exemple dévoiler le nombril des femmes. Plus largement, il ne faut pas montrer l'accouchement, les unions entre noirs et blancs, les prêtres pasteurs ou les hommes politiques antipathiques ou corrompus. Vous l'aurez compris, ça ne rigole pas. Alors qu'en quelques semaines plus tard sort le premier film post-code, La Divorcée, c'est peu dire qu'il est scruté à la loupe et c'est peu dire qu'il ne respecte pas du tout les règles du code. Rappelez-vous, je vous le disais, interdiction de montrer l'adultère sous un jour attrayant. Eh bien, La Divorcée raconte l'histoire d'une femme trompée par son mari qui décide de se venger de lui en couchant avec son meilleur ami. Ironie du sort, c'est l'un des auteurs du code de bonne conduite, Irving Salberg, qui produit le film. Vous l'aurez donc compris, le code ACE est loin de calmer les ardeurs des cinéastes hollywoodiens. C'est même le contraire. Il faut dire que les producteurs les encouragent, car ces films marchent très bien au box-office, sans doute notamment en raison de la morosité ambiante. Nouvel exemple en 1933, avec cette fois le film Female, l'histoire d'Alison Drake qui dirige avec autorité l'entreprise automobile de son père décédé, aussi exigeante dans son bureau que dans sa chambre, où elle a l'habitude d'inviter certains de ses employés pour une nuit, pas plus. Elle ne veut pas s'attacher.
Une idylle ? Moi ? Je n'ai pas le temps, non ? Ça prend trop de temps et d'énergie. Une femme amoureuse est pitoyable. J'ai décidé de faire comme les hommes, d'être aussi sexiste qu'eux.
Alors le film ne la juge pas, cette Allison. Au contraire, il multiplie les scènes où elle rembarre les hommes avec fermeté.
Monsieur, n'envoyez plus de fleurs. Pas de sentimentalisme. On est au bureau. Ici, on fait des automobiles et je vous paie pour ça. C'est clair ?
Will Hayes lui-même, oui, l'auteur du code, est choqué par ce film. Il estime que le personnage d'Alison Drake affiche, je cite, « un appétit sexuel trop nettement indiqué ». Rassurez-vous, la modernité sociale a ses limites. À la fin du film, Alison abandonne la direction de l'entreprise pour se marier avec un homme qui lui fait comprendre que sa place est plutôt à la maison. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces films, dont certains, je le redis, sont disponibles dans le coffret Forbidden Hollywood. C'est que pour beaucoup, ce sont en fait des films féministes, alors que nous sommes en 1930. Les femmes viennent d'obtenir le droit de vote aux États-Unis, mais elles ne l'ont toujours pas en France. On est loin en tout cas des rôles de femmes potiches, dont les actrices vont hériter 20 ou 30 ans plus tard. Un dernier exemple dans Babyface. Lily Powers, interprétée par Barbara Stanwyck, est serveuse dans un bar miteux. Elle se fait tripoter par des clients bourrés et violents sous l'œil de son père. Un soir, il la force à coucher avec l'un d'entre eux, assez influent. Lily refuse et s'enfuit, commence alors une renaissance. Elle trouve un travail dans une banque et prend conscience de son pouvoir de femme, c'est-à-dire coucher avec tous les hommes qui peuvent l'aider à fuir la misère de la Grande Dépression.
Hey, j'aime bien ici. Vous m'embauchez ?
Vous avez de l'expérience ?
Ouais, beaucoup.
C'est ça qui est intéressant également. C'est que ce manque d'argent en pleine dépression apparaît en filigrane dans ces films du pré-code.
Si mon petit mouton veut me faire un cadeau, il peut mettre ses sous sur mon compte bancaire.
Dans cette scène au moins, ça a le mérite d'être clair. Notons aussi que le pré-code va révéler certaines actrices ou acteurs, comme Barbara Stanwyck ou Clark Gable. Car on a beaucoup insisté sur le caractère sexuel de certains des films. Mais d'autres traitent des problèmes sociaux du jamais vu à cette époque à Hollywood. On appelle ça des social problems films, des films dont les intrigues sont inspirées par les titres de journaux. Ils mettent souvent l'accent sur l'échec du New Deal et sur les victimes d'un capitalisme écrasant. Dans Employees on Trends, par exemple, la critique des dérives capitalistes est incarnée par un directeur de magasin tyrannique et sans une once d'humanité. Alors qu'un de ses employés en poste depuis 30 ans vient de se faire virer et s'est donc suicidé, il déclare devant les autres employés encore sous le choc
« Tout homme qui a fait son temps devrait se défenestrer, mais beaucoup ne savent pas quand ils sont finis. Il était fini, et je le serai aussi un jour. J'espère m'en rendre compte le premier. »
Ce qui donne une idée du climat anxiogène de l'époque. On pourrait aussi parler de Ange Blanc, qui traite de la malnutrition de jeunes orphelins afin de leur piquer leur héritage. Ou encore d'addiction à la drogue dans le magnifique Héros à vendre, un vétéran de la Première Guerre mondiale devenu dépendant à la morphine. Le réalisateur William Hay Wellman filme Le Mans comme il ne sera jamais plus filmé avant au moins 40 ans. Idem pour l'homosexualité, considérée à l'époque comme une perversion sexuelle. Dans Public Enemy, un tailleur s'émerveille en touchant les bras musclés de son client. Mais dès 1933, la situation se tend. L'Amérique puritaine ne supporte plus ce cinéma outrancier. Certaines églises interdisent même à leurs fidèles d'aller voir ces films sous peine d'être bannis de la communauté. En parallèle, un climat d'antisémitisme monte peu à peu, alors même que de nombreux magnats d'Hollywood sont juifs. Et en juillet 1934, le couperet tombe. Joseph Breen est nommé à la tête de l'organisme chargé de faire appliquer le code Hayes. Et cette fois, pas d'entourloupe, il l'applique à la lettre. Joseph Breen peut faire changer n'importe quelle scène de n'importe quel film. Comble de la censure, si les studios veulent ressortir des longs-métrages réalisés avant l'application du code, ils ne peuvent le faire qu'à la condition de couper les scènes choquantes. Certains réalisateurs préfèrent détruire leurs films. Cette période bénie du pré-code prend donc fin. Le réalisateur Mervyn LeRoy la résume ainsi : « C'était la plus belle époque d'Hollywood et c'était le pied d'en être. » Précisons que le Code ACE ne sera abandonné qu'en 1968, 34 ans après son entrée en vigueur. Et pour aller plus loin sur la question, je recevrai dans une poignée de secondes Franck Garbars, professeur de cinéma à Sciences Po et surtout spécialiste de cette question du pré-code. C'est juste après un peu de musique. Tiens, on va écouter City of Stars, extrait de la bande originale de La La Land, chanté évidemment par le duo Emma Stone et Ryan Gosling. Vous êtes bien dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. City of Stars, are you shining just for me? Of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. City of Stars, extrait de la bande originale de La La Land, chanté par Emma Stone et Ryan Gosling dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. Justement, dans un tout petit instant, on poursuit notre récit autour de la période du pré-code à Hollywood, cette période de liberté folle dans les années 30. C'est dans une poignée de secondes sur Europe 1.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on continue de parler aujourd'hui de la période du pré-code à Hollywood, cette période de liberté folle sur grand écran dans les années 30, avant la mise en place de la censure. C'est à l'occasion de la sortie du coffret Forbidden Hollywood, édité par Warner. Et pour poursuivre notre réflexion, j'accueille Franck Garbars. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de cinéma à Sciences Po, à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, et spécialiste de cette période du pré-code. On peut aussi vous lire dans la revue Positif. Alors déjà, question un peu large, mais est-ce que cette période du pré-code aux États-Unis, ça a été la période de plus grande liberté à Hollywood, même, je dirais, si on la compare à ce qui a pu se passer ces 10, 20, 30 dernières années?
J'ai envie de dire oui. Étonnamment. Étonnamment, cette période qui dure 4-5 ans, entre 29 et 34, est une période de foisonnement sur le plan des thématiques qui sont abordées dans les films, absolument inimaginable, même aujourd'hui, en termes de liberté des mœurs, liberté sexuelle, la manière dont les femmes sont actrices de leur propre vie, sur le plan des thématiques sociales, politiques, c'est absolument hallucinant.
Et comment on explique justement que dans cette période, l'Amérique est en pleine crise économique, ce sont nos conservateurs qui sont au pouvoir, il y a une église qui est très puissante, et pourtant Hollywood peut se permettre comme ça de faire, j'allais dire n'importe quoi dans le bon sens du terme, mais cette liberté folle, comment on peut expliquer ça?
Alors ce qu'on peut dire, c'est que Hollywood s'est acheté, entre guillemets, une sorte de liberté, en faisant une concession à la fin des années 20, avec un code. Parce qu'en fait, le code existe.
C'est eux qui l'ont rédigé.
Exactement, exactement. Il y a ce fameux Hayes, le fameux William Hayes, quelqu'un d'extrêmement puritain, d'extrêmement austère, pas tout seul, hein, bien sûr, hein, avec des légions, les Legion of Decency catholiques, qui vont rédiger une sorte de manuel de ce qu'on appelle les do's and don'ts, c'est-à-dire les choses qu'on peut faire et les choses qu'on ne peut pas faire, et les choses qui sont carrément interdites. Mais en réalité, l'administration qui est mise en place pour faire respecter ce code,
c'est ça,
est complètement impuissante.
Et ne le respecte pas.
Ne respecte pas, avec évidemment l'aval total des patrons des grands studios.
Parce que ça marche en salle.
Parce que ça marche en salle, exactement. Ça fait des entrées, ça fait du box-office.
C'est vraiment les religions, notamment l'Église, qui ont mis fin à cette période, quand ils ont commencé à dire à leurs adhérents et leurs fidèles n'y allez plus.
Ouais, complètement.
À un moment donné, c'est ça qui a fait basculer.
Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les films sont devenus tellement audacieux, on pourra évidemment donner quelques exemples, mais les films sont devenus tellement audacieux, tellement forts dans ce qu'ils abordaient, vraiment des films très transgressifs, qu'à un moment donné, la League of Decency, d'ailleurs a fusionné, la Catholic Legion of Decency a fusionné avec certaines qui étaient protestantes pour faire la National Legion of Decency.
Plus fort.
Exactement, et pour dire attention, dans les sermons qu'on délivrera le dimanche, on dira carrément à nos fidèles, si vous continuez à aller voir ces films licencieux, eh bien vous irez en enfer. Et là, à un moment donné, ils ont même d'ailleurs mis en place une sorte de classification A, B, C, avec C, les films qui étaient condamnés par l'Église. Et donc, à un moment donné, les patrons des studios ont vraiment flippé, parce qu'ils se sont dit, attention, là, c'est le box-office qui risque d'être entamé. Alors là, évidemment, quand vous trapez sur le portefeuille, bon, c'est pas du tout pour des raisons morales ou puritaines, mais vraiment pour des raisons d'argent.
Parce que ce qu'il faut dire aussi, alors, il y avait ni parlé dans ces films de sexe, on y parlait d'égalité homme-femme, c'est aussi les premiers films presque féministes.
Complètement. Vous avez un film absolument incroyable qui s'appelle Babyface avec Barbara Stanwyck. On connaît souvent Barbara Stanwyck après le code. On la connaît beaucoup moins dans cette période-là. Alors qu'en fait, elle a eu des rôles absolument incroyables. Et dans Babyface notamment, elle travaille dans une grande entreprise et elle réussit à grimper les échelons de l'entreprise en couchant avec les différents cadres de la boîte. Mais elle n'est jamais montrée, elle réussit, et elle n'est jamais montrée comme étant une sorte de perverse qui utiliserait ses charmes pour parvenir à ses fins. Elle est montrée comme étant une victime de la société. Elle est née dans une famille miséreuse, son père était violent. Et donc, elle est une victime des circonstances. Et c'est le cas dans plein de films. Les films de gangsters, c'est la même chose. Les prostituées, c'est la même chose, etc. etc. Donc, ils sont toujours des personnages qui sont victimes de leur époque, d'une société inique, d'une société absolument injuste, qui se moque complètement des parias. Et donc, voilà. Donc, en fait, ces personnages sont systématiquement réhabilités par les films.
Il reste un héritage dans le cinéma hollywoodien d'aujourd'hui, de cette période, ou pas du tout?
J'ai le sentiment que, alors, ce qui est intéressant, c'est compliqué de parler du cinéma hollywoodien contemporain sans parler de ce qui s'est passé entre les deux.
Ouais.
Parce qu'en fait, à un moment donné, le code est appliqué.
34.
Ouais, 1er juillet 34. Hein, y a vraiment une date comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les metteurs en scène, les producteurs, les scénaristes vont tout faire pour le contourner. Alors, soit de manière maladroite, ça arrive évidemment, mais quand ce sont des metteurs en scène ou des scénaristes de génie, et il y en a eu un paquet, évidemment, ça donne lieu à des chefs-d'œuvre. Et c'est d'autant plus intéressant que finalement, cette contrainte, cette chape de plomb que représente le Code Hays, va finalement être source de créativité.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une image du cinéma américain grand public, bah, où on voit souvent assez peu de personnes nues, donc on se dit, est-ce que c'est pas un héritage aussi de toute cette époque qui même inconsciemment a forcément formé les réalisateurs, les techniciens du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui.
Tout à fait. Ça reste aujourd'hui plus simple de montrer un meurtre d'une manière extrêmement graphique et réaliste plutôt qu'effectivement de dénuder un corps. Oui, ça reste beaucoup plus simple.
Justement, pour finir, il y a beaucoup de films de cette période pré-code, mais c'est un ou deux films qui, selon vous, caractérise le mieux, ou si on doit le voir pendant ce confinement, on a une ou deux soirées pour aller se plonger dans le cinéma hollywoodien des années 30. Quel film ?
Alors, il y a un film extraordinaire qui n'est pas très connu, qui s'appelle Héros à vendre. Il date de 32 ou 33. Voilà. Et ce film-là est un film que on appelait, ça faisait partie des social problem films que la Warner produisait de façon extrêmement régulière. Et c'est un film qui raconte le parcours d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui est blessé pendant la guerre, qui, pour atténuer ses douleurs, on lui donne de la morphine et il devient accro à la morphine, devient morphinomane. Et ce garçon va tout faire, il va devoir voler à un moment donné pour obtenir sa dose. Donc on parle finalement d'un personnage qui s'est battu pour les États-Unis pendant la guerre et qui est totalement abandonné par l'État, par la société, par les grandes entreprises. Un peu plus tard dans le film, on le voit finalement, il refait sa vie, et on le voit dans une entreprise qui, à un moment donné, décide de s'équiper en machine, et donc ils vont licencier 50 ou 60% du personnel d'une manière absolument hallucinante qu'on n'oserait même plus envisager aujourd'hui dans une société pourtant néolibérale. Donc évidemment, les ouvriers vont se liguer contre la direction. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit ces ouvriers déchaînés, et on les comprend évidemment dans le film, on est complètement avec eux, on est en empathie avec eux, s'en prendre aux policiers, s'en prendre aux machines, etc. Donc on a un film qui à la fois parle de toxicomanie, parle du manque, parle encore une fois de ce personnage complètement lâché par la société et par l'État, et on a aussi un film qui parle d'anarcho-syndicalisme. On n'a jamais vu ça à Hollywood.
Et pourquoi Warner a attendu si longtemps, finalement, vous pensez, pour les ressortir comme ça, sous forme d'abord en salle au moment du premier déconfinement, puis là, avec ce beau coffret en vue des fêtes de Noël? C'est dingue de se dire qu'on a attendu 80 ans pour...
Est-ce qu'aujourd'hui, on redécouvre... Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où on redécouvre beaucoup le patrimoine. Ouais. Il y a beaucoup d'éditeurs, vous les connaissez aussi bien que moi, hein, qui font un travail absolument formidable. On se rend compte aussi qu'il y a une vraie appétence du public, à la fois en salle, mais aussi en DVD, Blu-ray, ou sur certains sites comme la Cinéthèque, pour justement ce cinéma de patrimoine. Donc je pense que c'était presque un manque que ce cinéma-là, qui encore une fois n'a duré que 4-5 ans, n'existe pas et qu'on ne puisse pas y accéder. Aujourd'hui, c'est grâce à Warner, c'est le cas.
Et grâce à ce coffret, donc Forbidden Hollywood, merci beaucoup Franck Garbard d'être venu dans ce studio de Clap.
Avec plaisir.
Pour poursuivre un petit peu notre réflexion autour de cette période. J'espère qu'on vous aura donné envie de profiter de ce confinement pour aller voir certains des films qu'on a cités. Je rappelle que vous êtes enseignant, vous enseignez le cinéma à la fois à Sciences Po, à la fois à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, et qu'on peut vous lire dans le magazine Cinéma Positif, que je conseille à nos auditeurs aussi si vous aimez le cinéma. Voilà, prenez le temps de regarder et d'acheter Positif. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est le dessinateur et réalisateur d'ailleurs, parce qu'il a fait aussi quelques films, Riyad Satouf, qui partagera avec nous ses souvenirs de cinéma. A tout de suite.
Europe 1.
Et on se retrouve pour les films de ma vie dans Clap. Aujourd'hui, c'est Riyad Satouf qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les films de ma vie. Bonjour.
Bonjour Mathieu Charrier.
Vous allez bien ?
Ben, ça va très bien.
À l'occasion de la sortie du tome 5 de l'Arabe du futur, déjà le tome 5, alors qu'au début c'était parti pour 3 tomes seulement.
Alors c'est surtout que je ne savais pas vraiment, quand j'ai dit que c'était en 3 tomes, je sais où va l'histoire. Maintenant de savoir quel nombre de pages auraient les tomes, je ne sais pas. En tout cas, les livres sont destinés à être un gros livre à la fin. Voilà, bon. Ce sont des épisodes.
On y va pour notre questionnaire, vous êtes prêts ? Votre premier souvenir de cinéma ?
C'était Le Retour du Jedi, que j'ai vu à sa sortie. Donc je pense que j'avais 4 ans ou 5 ans. Ma mère m'avait emmené le voir. Je n'avais absolument rien compris, mais j'ai retenu la musique du Jedi, et je la sifflote tout le temps. Des grands amateurs de la première trilogie, un petit peu moins de celle d'après, et puis alors franchement plus du tout des nouveaux, mais Star Wars, c'était quelque chose d'important quand j'étais enfant.
La rébellion sera bientôt écrasée, et Skywalker deviendra un des nôtres.
Vador, tu dois affronter Vador.
Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi.
Votre meilleur souvenir en salle ?
Je crois que c'est quand j'avais vu, que j'étais adolescent et que j'ai vu Lost Highway de David Lynch, qui est le film des adolescents par excellence, ou qui est vraiment le film sombre, mystérieux, adulte et en même temps adolescent, parce que complètement mutant, transformé, avec ce personnage qui change d'apparence au milieu, c'est un grand mystère. Je suis amoureux des films de David Lynch. Et voilà, Lost Highway, c'était incroyable.
Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas ?
Je ne crois pas, non. Où est-ce qu'on s'est rencontrés, d'après vous ?
Dans votre maison, vous ne vous rappelez pas ?
Non, non, pas du tout.
Je peux même vous dire que j'y suis encore maintenant. Dans votre maison.
Votre séance de cinéma la plus dingue, Riyad Satouf ?
Ah, ma séance de cinéma la plus dingue, ça me vient tout de suite en tête, c'était quand j'étais étudiant au Gobelin, ou même un petit peu après, je crois. C'était les nuits blanches à la Cinémathèque de Nanarland, où pendant toute une nuit blanche, ils diffusent des bandes-annonces, des films, de terribles nanars de toutes origines, de tout doublé en français avec des... Et en fait, c'est non seulement la séance la plus dingue, mais c'est l'expérience comique la plus dingue que j'ai vécue de ma vie, en fait. De ce... Alors, je ne sais pas s'ils continuent à le faire maintenant, bien sûr, ils ne peuvent plus le faire. Je ne sais pas si tous les ans, ça continuait encore, ces séances.
Je crois que ça continue au Grand Rex.
Mais je me rappelle, donc, on commence, il est 20h, on commence à y aller, paf, et en fait, vous vous retrouvez à 3h du matin à regarder des trucs. En fait, vous vous endormez. Moi, je me rappelle, je m'endormais sur mon siège de fatigue vers 5h du matin, on n'en peut plus. Donc, on s'endort, et à un moment, vous êtes réveillé par un bruit, vous regardez l'écran, et là, vous voyez un mec avec une coiffure complètement improbable en train de dire « Baby, je vais t'ouvrir en deux. Non, tu ne m'ouvriras pas en deux !» Et en fait, on passe du sommeil le plus absolu à un éclat de rire immédiat. C'est une expérience physique. Moi, je pense qu'on devrait faire des séances comme ça toutes les semaines partout en France. C'est unique.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Riyad Sattouf. Me dites pas Jackie au Royaume des Filles.
Alors, attendez, un film. Ah bah, bien sûr, moi, le film où j'adorerais vivre, tout simplement, c'est Retour vers le futur. Bien sûr. Je trouve que c'est un film incroyablement accueillant, un univers très accueillant. J'adorerais avoir un mentor comme Doc, pouvoir voyager dans le futur. Je dirais à Doc, « Doc, il ne faut surtout pas aller en 2020, cette année est vraiment merdique. Marty, évite évidemment d'aller en 2020
!»« Mais oui, bien sûr, le 5 novembre 1955. » C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur d'Ambrel.
Le film que vous avez le plus vu, Riyad Sattouf.
Alors c'est marrant parce que je crois que c'est Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Alors pourquoi est-ce le film que j'ai le plus vu? Je ne saurais pas le dire, mais je l'ai encore regardé il y a 3 jours. Je l'ai regardé de très nombreuses fois quand j'étais étudiant en art, étudiant. J'adore ce film. J'adore Gérard Depardieu dans ce film. Tout ce que ça raconte en plus. Alors, j'aime beaucoup Bernanos mais je ne sais pas. Je trouve qu'on sent dans ce film l'amour, l'admiration que Depardieu avait pour Pialat. Avec une simple raison, c'est que c'est un des rares films où Depardieu semble suivre des consignes de mise en scène. C'est-à-dire que il lui arrive de mettre la main à certains endroits, de se tourner vers certains endroits. Alors qu'en fait, Depardieu, il est quand même connu qu'il arrive sur un plateau et c'est la caméra qui doit le suivre, c'est pas lui qui va. Et donc là, on sent qu'il a un grand respect pour Maurice Pialat. C'est ce que raconte ce film avec ce prêtre qui a ce jeune sous sa coupe, etc. C'est un film vraiment sublime. Toute la partie où il erre dans les champs et où il rencontre le diable, etc. Avec cette nuit américaine hallucinante, c'est vraiment... J'adore ce film, ça me donne presque envie de le revoir.
Ta douleur est stérile, Satan. Quel jour ai-je cédé pour la première fois? Quel jour ai-je reçu ton désespoir avec une complaisance insensée?
Le film qui vous a fait le plus rire, Riyad Sattouf.
Oh là là, il y en a beaucoup quand même, des films qui m'ont fait beaucoup rire. Alors j'ai cité Les Visiteurs quand même, les films des Inconnus, Le Paris, Les Trois Frères. Alors attendez, je vais essayer de vous en citer un autre qui m'a fait extrêmement rire. Alors j'adore les films de Will Ferrell, je les trouve très très drôles. J'aime beaucoup aussi les films des deux frères là, qui avaient fait Food Irene et Marie à tout prix, etc. Ce sont des films qui me plaisaient énormément quand j'étais adolescent, qui racontent d'ailleurs des personnages de psychopathes en général, de mecs harceleurs complètement cinglés. Mais voilà, Jim Carrey, je l'aime d'amour.
Les frères Farrelly, réalisateurs de Marie à tout prix, vous présente l'histoire de Charlie Belly Gates. Depuis toujours, il se fait avoir.
Attention, ça rigole plus maintenant.
Mais en tout homme, comme Charlie, sommeille un homme comme Hank.
Le diagnostic des médecins indique que vous souffrez d'un dédoublement de personnalité.
Vous êtes schizo.
Vous, vous évitez les conflits. Mais l'autre qui est en vous,
Hank, lui, il les cherche.
Le film qui vous a fait le plus pleurer, Riyad Sattouf.
Ah bah là, il y en a deux. Alors, le premier, bien entendu, alors c'est pas très original, mais c'est Le Tombeau des Lucioles, bien sûr, d'Isao Takahata. Alors là, rien que de dire le titre, je vais parler d'autre chose, sinon je vais me mettre à pleurer. Donc, et le second, peut-être plus surprenant, mais quand j'y repense aussi, je me dis, je vais pas en parler trop longtemps parce qu'il est vraiment trop triste, c'est AI de Spielberg, qui pourtant n'est pas considéré comme un... Enfin, moi, je l'adore, j'adore ce film, et ouais, c'est un de mes films qui m'a fait le plus pleurer, ce petit garçon robot, là, qui est horrible.
À une époque où l'homme est devenu dépendant des robots, pour satisfaire le moindre de ses besoins,
l'homme nous a fait meilleurs dans notre spécialité, plus qu'il n'a jamais été humainement possible.
La science va créer un nouvel ordre d'être artificiel.
Tu es une machine.
Je suis un garçon.
Impossible.
Plus intelligent, plus sensible et plus humain que nous-mêmes.
Ils nous ont fait trop malins, trop vifs et trop nombreux. C'est pour ça qu'ils nous haïssent.
Un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur.
Oh, j'en connais plein. Je connais par exemple... ça, si je vous fais ça, est-ce que vous allez savoir ?
Qu'y a-t-il de mieux dans la vie ? Un rapide coursier, un faucon à ton poing, et le vent dans tes cheveux. Faux ! Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie ? Écraser ses ennemis, les voir mourir
devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes.
Oui !
Très bien.
Conan le barbare, voilà. Ça, j'adore. Ou alors, j'en ai une autre, si vous voulez faire. C'est le Star Wars...
Yann Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor.
Jacob dit que vous cherchez un vaisseau pour vous rendre sur Eldoran. Oui, c'est assez rapide. Vous n'avez jamais entendu parler du Millennium Condor? Non, pourquoi j'aurais dû... C'est ce type d'engin qui a mené l'attaque sur Kesselring en 20 parsecs. Je bats les navires de l'Empire à vitesse pure. Attention, je parle pas des croiseurs. Alors oui, il est assez rapide. Quelle est la cargaison?
C'est deux droïdes, ce jeune homme et moi-même. Et sur aucune question indiscrète.
Vous avez des petits problèmes dans le coin?
Disons que nous souhaiterions que l'Empire ne s'intéresse pas trop à nous.
Ça va vous coûter plus cher.
Alors ça va vous coûter un petit extra et payable d'avance. Disons, voyons...
2 000... heures plus tard, je suis à la fin.
Vous voulez vraiment regarder beaucoup.
Chico, branche les convecteurs.
Et pour finir, la bande originale qui a le plus marqué votre vie, Riyad Satouf.
C'est la bande originale de Arena 2. Enfant, c'était la bande originale de Star Wars. Et puis, il y a aussi les 400 coups de François Truffaut. Je l'écoute tout le temps.
14h-15h sur Europe 1, clap.
Merci beaucoup Riyad Satouf.
Merci à vous Mathieu Charrier.
D'être venu nous rendre cette petite visite dans Clap. Je rappelle votre actualité, la sortie du tome 5 de l'Arabe du Futur, toujours chez Alary Édition. Nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission, le temps d'accueillir mes collègues critiques. On va notamment débattre du dernier film de François Ozon qui est sorti cette semaine en DVD VOD. A tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et je suis très heureux de les retrouver en studio pour débattre des films sortis en DVD VOD cette semaine. Autour de la table aujourd'hui, Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on a un bon programme aujourd'hui avec notamment le dernier film de François Ozon, avec aussi L'aventure des Marguerites et avec Voir le jour. On commence donc par Été 85, dernier film signé du prolifique François Ozon. C'était sorti l'été dernier et c'est désormais disponible en DVD VOD.
Ça va, mon chéri ?
Ouais.
Plaisir à voir tous les deux.
À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus.
C'est toi la question.
Et toi, moi, quoi?
Et toi, tu m'ennuies, toi.
Alors, c'est une histoire assez dure à résumer, d'autant que je ne veux pas trop vous en dire. Simplement que le film raconte une première histoire d'amour homosexuel à l'été 85 au Tréport. Une histoire d'amour assez traumatisante pour l'un des deux héros. Une histoire d'emprise aussi. Mais ça donne, je trouve, en tout cas des souvenirs que j'en ai, parce que je n'ai pas revu le DVD, mais des souvenirs que j'en ai en salle, un film doux, bouleversant, avec cette belle douceur de l'été qui peut vous réchauffer en cette période de froid et de confinement. Fabrice Leclerc, qu'en aviez-vous pensé? Est-ce qu'il faut le voir en DVD?
Écoutez, oui, il faut le voir en DVD, surtout que le film a relativement bien marché en salle, mais n'a pas fait les scores que fait normalement François Ozon. Le film est sorti le 15 juillet, post-confinement, mais voilà, les gens avaient sûrement autre chose à faire que d'aller au cinéma. J'aime beaucoup ce film, pourquoi? Parce que j'aime pas forcément tous les films de François Ozon, mais j'aime quand il parle d'amour, parce que c'est quelqu'un qui arrive à parler de l'amour au cinéma, notamment d'une histoire d'amour entre deux garçons, qui est quelque chose encore plus difficile à faire passer au cinéma. Il y arrive, et puis c'est un film dramatique plein de légèreté, ou c'est une comédie terriblement dramatique. Et il joue toujours entre ces deux tableaux, ça se balance, c'est ses souvenirs d'enfance. Il faut le dire, c'est un film quand même relativement entre guillemets.
C'est un film qu'il avait en lui depuis longtemps.
Voilà, il l'avait en lui depuis longtemps. Et voilà, c'est une petite musique étonnante, toujours surprenante, parce que chez Ozon, ça part parfois dans tous les sens. Le film, là aussi, part dans tous les sens, mais il se tient. Vraiment, c'est un très beau film qui aurait dû être normalement représenté la France à feu Festival de Cannes, qui n'a jamais eu lieu.
Marilyn Leterre, traité 85.
Alors, moi, contrairement à Fabrice, j'aime plutôt tous les films d'Ozon.
Sauf celui-là.
Non, je l'aime, mais je dois avouer que je ne l'ai pas revu depuis la sortie en salle. Il ne m'en reste pas grand-chose. Ce qu'il m'en reste, c'est des images. Voilà, des morceaux, notamment sur tout ce qui concerne l'éveil amoureux, la découverte de la sensualité, tout ce qui est...
L'attirance.
L'attirance, le soleil, la bande-son qui est donc années 80 et qui est assez démente. Donc ça, évidemment, c'est... Mais presque comme un clip, en fait. Il m'en reste des images. Après, comme disait Fabrice, le film part un peu dans tous les sens, associe beaucoup de genres. Il me plaît dans ce dont je viens de parler. Il me plaît un peu moins quand il part vers quelque chose de plus noir, mais je vais pas...
Non,
pareil,
ouais.
C'est très difficile, mais voilà, de pas spoiler. Donc voilà, et une chose qu'on n'a pas dit, en revanche, c'est parler des deux jeunes comédiens qui sont absolument fabuleux, que sont Benjamin Voisin et Félix Lefebvre, qu'on reverra beaucoup. Enfin, Benjamin Voisin, c'est déjà plié, puisqu'on le voit beaucoup, et je crois qu'il est dans le prochain film de Giannoli, si je ne dis pas de bêtises.
Et il était dans un sacré bonhomme.
Avec Isabelle Carré. Et voilà, et les deux acteurs sont fabuleux, voilà. Mais après, moi, il m'en reste surtout des petites images clippées, quoi.
C'est l'occasion de le revoir en DVD, finalement.
Peut-être.
Voilà. Est-ce que c'est pas bien quand François Ozon ne fait pas des films un peu posés, et qu'il va chercher au fond de ses souvenirs et
C'est pour ça que
je
suis pas
beaucoup plus tendre et beaucoup plus véridique, franc.
Non, mais je suis d'accord avec toi sur la tendresse du film, et effectivement, c'est sans doute ces images-là qu'il me reste, tu vois. Ouais. C'est l'éveil entre la découverte entre ces deux garçons de leur amour naissant, enfin, surtout pour un des deux.
Oui, c'est ça.
Mais
attention, on va trop loin. Été voilà. 85, le DVD, c'est sorti cette semaine. Vous le trouvez aussi en VOD, donc n'hésitez pas. Là aussi, moi, je trouve que c'est un beau film à voir pendant ce confinement.
Clap.
Contrairement au deuxième film dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, mais je crois que vous avez bien aimé, donc ça tombe bien, on va pas être d'accord, c'est L'aventure des Marguerites.
Marguerite, tu étais en 2019 dans une malle.
Je sais, j'ai compris. Si tu viens du futur, tu dois avoir des informations sur la guerre.
Ah non, moi je sais rien sur 39-45, par quelques trucs. Hitler, hein? Hitler?
Oui.
Le débarquement en Normandie? La grande vadrouille.
Alors, nous avons deux héroïnes, Marguerite et Margot, qui ont 12 ans, qui vivent chacune leurs petites histoires. Marguerite en 1942, Margot en 2018. Mais tiens, dans le grenier se trouve une vieille malle magique qui leur permet de se projeter dans l'époque de l'autre. Vous me suivez? C'est-à-dire que Margot va se retrouver en 42 et Marguerite en 2018, avec chacune, en toile de fond, la même problématique. Un père qui n'est plus là, disparu en pleine guerre pour l'une, ayant quitté la maison pour l'autre.
Cachez votre joie. Hein,
voilà, chacune de leur côté, elles vont vivre une grande aventure pour chercher à retrouver leur époque. Voilà, moi j'avais été un peu ennuyé, mais je crois pouvoir dire que Fabrice Leclerc avait apprécié l'aventure des Marguerites.
Bah oui, il a un cœur.
La parole est à vous.
Il a un cœur d'artichaut, qu'est-ce que vous voulez? Oui, pourquoi? Parce que, alors d'accord, le film est balisé, c'est un film familial.
Ah,
c'est
ça.
Voilà, on est tous d'accord là-dessus. À partir de là, le film était extrêmement bien réalisé. Il y a un vrai soin amené à l'image, à la mise en scène et à l'interprétation, première chose. Deuxième chose, c'est un film qui, pour moi, dans ce format très familial, très codé, très respecté, hein, on n'est pas dans du, on n'est pas dans du Christopher Nolan.
Non.
Mais ça parle du temps, ça parle du rapport qu'on a à l'histoire et au temps. Et je trouve que le rapport entre ces deux jeunes filles qui se parlent, qui sont les mêmes à deux époques différentes, amène une réflexion qui est pour moi assez intéressante sur, oui, se soucier de l'histoire, se soucier de ceux qui nous ont précédés. Et en apprendre quelque chose. Et là-dessus, je trouve que le film est très regardable. Et moi, j'ai passé un très bon moment. J'en attendais pas plus que ce que j'ai vu. Mais pour le coup, je le conseille parce que c'est un film familial qu'on peut regarder un dimanche après-midi. Les enfants seront contents et les parents aussi.
Marilyn, l'aventure des Marguerites, c'est à vous de nous départager.
Alors,
la pression.
Ça va être difficile hein, parce que je suis un peu d'accord avec vous deux. En fait.
Ah.
Je pense que tout est une question de perspective.
C'est la Suisse.
Je pense que,
vous allez finir à l'ONU.
Je pense que les enfants de moins de 12 ans hein, vont plutôt accrocher. Effectivement, il y a tout ce fossé entre les deux époques, les générations.
Pourquoi moins de 12
codes,
ans?
Parce que je pense que les adolescents un petit peu plus âgés ont l'habitude de voir des choses un petit peu plus ambitieuses, ouais. Peut-être.
Bon.
Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, c'est très naïf, c'est très balisé, c'est très convenu, c'est très gentillé. Donc, je pense que pour un jeune public, c'est tout à fait adapté. Je crois en revanche que les adultes ont peut-être tiqué un petit peu et potentiellement s'ennuyer. C'est assez mou, enfin voilà. Et tu parlais de l'interprétation, je crois, Fabrice, tout à l'heure.
Ouais.
Je suis pas convaincue par la jeune fille, moi personnellement. Autant je trouve qu'Alice Paul et Clovis Cornillac font bien le job et sont bien dans leur rôle.
Alice
la
Paul
jeune
est particulièrement
fille,
bien.
En revanche, moi, je la trouve pas toujours juste. Ça dépend un petit peu des scènes. Voilà. Donc effectivement, peut-être papy et mamie avec leur petit-fils ou leur petite-fille un dimanche après-midi avec un petit chocolat chaud, ça peut le faire. Bon, si vous êtes en couple, que vous avez 40 ans et je sais pas, je suis pas persuadée.
Voilà. Fabrice, vous êtes habillé pour l'hiver au
voilà,
passage.
J'allais prendre mon petit chocolat chaud, moi, donc. Hein.
Voilà pour l'aventure des Marguerites qui est sortie en DVD, VOD cette semaine.
Clap.
Et je voulais enfin qu'on parle de la sortie de Voir le jour, là encore en DVD, VOD.
Ah, c'est un beau bébé, hein.
T'es au courant?
De quoi?
Il a survécu, mais l'autre pas.
Il a raison de porter plainte, parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire. Donc...
Et pas parce qu'on fait ça par vocation qu'on doit être payé minablement. Donc ce soir, il faut décréter la grève.
Portée par Sandrine Bonner, qui nous plonge dans le quotidien d'une maternité où Jeanne est auxiliaire. Elle doit jongler entre ses mamans stressées, fatiguées avec leur bébé. La pression aussi de la direction, incarnée par un médecin-chef assez cynique. Rajoutez à ça que Jeanne élève seule sa fille Zoé, qui est âgée désormais de 18 ans. Et vous avez à peu près la toile de fond du film, avec cet équilibre précaire qui va être chamboulé par un drame à la maternité et évidemment le départ de Zoé pour aller étudier à Paris. C'est un portrait de femme, j'allais dire banal, mais pas dans le mauvais sens du terme, femme forte et femme au pluriel, puisqu'on suit aussi les collègues de Jeanne. Voilà, c'est un film très bien balisé là encore, mais assez joli, moi je trouve, Marilyn Letertre.
Oui, moi aussi, c'est un film qui me plaît. En fait, il y a presque deux films dans le film, en fait. Il y a une chronique sociale, effectivement, et une espèce de radiographie du quotidien d'une maternité en France aujourd'hui, donc avec toutes les conditions de travail, le manque de moyens, enfin, des sujets en plein cœur de l'actualité. Ça, c'est très réussi aussi parce qu'on parle de la sororité, de la solidarité entre toutes ces femmes qui travaillent ensemble. Donc, à ce titre, le film est extrêmement réussi. Sandrine Bonner est absolument magistrale. Il se trouve qu'il y a une deuxième partie dans ce film qui est plutôt le portrait intime de cette femme. Dans les scènes, on va dire, d'aujourd'hui contemporaine, ça fonctionne, mais il y a énormément de flashbacks.
Les petits flashbacks, ouais.
Et les flashbacks, franchement, surlignent et parasitent tout le reste, notamment parce qu'ils sont mis en scène de façon un petit peu maladroite par moment, que les acteurs de ces flashbacks, Sandrine Bonner mise à part, puisque voilà, ne sont pas toujours très très bons. Et voilà, donc il y a, voilà, sans les flashbacks, J'adore le film. Il aurait juste fallu le débarrasser de ça.
Faut faire avance rapide que les flashbacks.
Mais par ailleurs, je trouve quand même que c'est un très très joli film, oui, sur ce qu'on disait sur l'hôpital, la maternité. Et voilà. Et les seconds rôles sont absolument dingues aussi. Il y a Kenza Forta, Soratica. Et je pensais à une autre actrice, mais dont j'ai oublié le nom. Je m'en excuse. Mais Fabrice va peut-être attraper mon coup.
Voir le jour, Fabrice Leclerc.
Écoutez, je continue à boire mon chocolat chaud, mais j'aurais aimé que vous assumiez un peu plus votre avis sur le film. Oui, il y a deux films en un. Il y a un film extrêmement réussi qui est celui sur la vie de cette infirmière, le quotidien de ce service d'hôpital. Et puis il y a un deuxième film sur sa vie privée qui fout le film par terre.
Dans son rapport à sa fille, je suis pas d'accord. C'est intéressant.
Oui, le départ de la fille, etc. C'est quand même
ça. Il y a trois sujets
dans le film, mais il y a trois films. Et je trouve que le film est plein de qualités. Sandrine Bonner, oui, est très très bien. Il y a Marion Lenne, une vraie metteur en scène, et il y a beaucoup de tendresse dans ce film. Mais il y a trois films en un. Il y a un grand problème d'écriture et le film finit totalement en brinque-ballant. Moi, j'en suis ressorti assez étonné par... je ne sais pas vraiment ce que j'ai vu. Je n'ai pas réussi à m'accrocher à l'une des histoires. J'aurais aimé voir sûrement plus du quotidien de cette femme-là.
Laissez Fabrice Leclerc à son aventure des marguerites et allez voir, enfin plutôt regardez le DVD, voir le jour. Je vous assure que vous y trouverez mieux votre compte. Merci beaucoup, mon cher Fabrice et Marilyn. Avant de se quitter, un petit coup de cœur. Marilyn Le Tertre.
Alors oui, moi un coup de cœur pour une série OCS qui débarque le 24 novembre qui s'appelle Cheyenne et Lola. C'est une espèce de Thelma et Louise dans le nord de la France, sans la cavale, mais des femmes qui, avec leur entourage, vont décider de reprendre le pouvoir, de serrer les coudes et de dire aux bonhommes qui les entourent et qui les maltraitent, basta, ça suffit les conneries.
C'est pour ça, c'est pour Fabrice et moi.
Ah, c'est pour tout le monde. Tout le monde devrait voir ça, Mathieu, évidemment. Et donc, c'est noir, c'est malaisant, c'est hyper bien joué. Et les actrices, ce sont Viole Bettens, donc pardon si j'écorche la prononciation, mais qui jouait dans Alabama Monroe, ouais, et Charlotte Lebon, qui est absolument formidable, en fausse ingénue. Elle est incroyable, on la découvre... très très bonne actrice, je trouve. Donc, Cheyenne et Lola, sur OCS, le 24 novembre.
Fabrice Leclerc, un petit conseil.
Oui, c'est sur Disney+. C'est une série documentaire qui s'appelle The World According to Jeff Goldblum. Qu'est-ce que ça raconte? C'est Jeff Goldblum qui est le centre de ce documentaire et qui part à la découverte des grands fondamentaux américains de la pop culture. Il y a un épisode sur la glace, il y a un épisode sur les baskets. Voilà, il y a un épisode comme ça sur chaque élément un peu fondateur de la pop culture américaine. Par le regard, dans le rythme, dans cette faconde absolument phénoménale qu'a Jeff Goldblum. Et c'est absolument génial. C'est inintéressant hein, sur le fond, hein, on n'est pas là pour ça. Mais Jeff Goldblum qui vous raconte les glaces et qui écoute quelqu'un vous raconter l'histoire de la glace ou de la basket, ça dure 30-40 minutes, c'est juste un petit bonheur. Vous en regardez un, vous regardez les 8, vous regardez les 10.
Et c'est sur Disney+, on a aussi parlé donc de Voir le jour en DVD, VOD, tout comme L'aventure des marguerites et... Était 85 derniers films signés François Ozon. Merci Marilyn Le Tertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match.
Nous merci, on se retrouve Mathieu.
La semaine prochaine, même lieu, même heure, 14h, 15h sur Europe 1 pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Émission réalisée par Nicolas Baudin et préparée par Marjorie Adelson. Rendez-vous la semaine prochaine, 14h, 15h pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma.
Europe 1.